Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma, c'est tous les mercredis et bien sûr vos invités. Et puis on reviendra aussi grâce à un reportage sur ce qui se passe à l'université pour lutter contre l'extrême droite. Aujourd'hui, on accueille Chloé Rivollet, elle est co-directrice responsable animation territoriale de la coopérative des tiers-lieux. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette nouvelle stratégie régionale de la région Nouvelle-Aquitaine en faveur des tiers-lieux. L'idée, c'est de renforcer un peu le maillage territorial, de consolider aussi tous les tiers-lieux existants. Et est-ce que d'abord, on peut rappeler peut-être ce que c'est qu'un tiers-lieu concrètement et pourquoi c'est important pour la région Nouvelle-Aquitaine ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est la question qui vaut cher puisque c'est compliqué de définir les tiers-lieux rapidement, mais je vais essayer d'être concise et claire. Les tiers-lieux, on a tendance à dire que c'est d'abord une configuration sociale. Donc, c'est un lieu dans lequel l'objectif est qu'ensemble, les citoyens, les habitants d'un territoire décident de faire société collectivement. Donc, une fois qu'on a dit ces gros mots, concrètement, ça veut dire qu'en fait, c'est des habitants d'un territoire qui identifient qu'il manque un certain nombre d'activités ou de services sur le territoire en question et qui décident ensemble de monter un projet collectif qui va devenir un bien commun dans lequel chacun va pouvoir apporter ses ressources, ses compétences et ainsi développer des activités ou des services qui vont répondre à ces besoins qui étaient manquants de par ce qu'ils avaient identifié. Donc, sur le territoire de la Vienne, par exemple, moi, j'aime bien citer quelques tiers-lieux. Je pense aux usines qui sont situées à Ligugé, où c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que c'est 4 ou 5 personnes au départ qui ont décidé de réhabiliter une ancienne filature pour en faire leur lieu de vie. Mais comme le lieu est très grand et qu'il y avait une volonté de valoriser ce patrimoine et puis de dynamiser la vie locale, ils ont aussi décidé, sur la base des besoins des habitants, de déployer des activités comme un espace de coworking pour les entrepreneurs ou les salariés en télétravail, mais aussi plusieurs ateliers artisanaux partagés dans lesquels on va retrouver des différents corps de métiers d'artisans locaux, un marché pour venir acheter ses produits locaux sur ce tiers-lieu, une activité culturelle, et puis plus tard un Fab Lab, donc la mise à disposition de machines de production, de prototypage ou de plus grosses productions, là aussi pour des artisans ou des particuliers, à l'échelle d'une petite commune au sud de Poitiers. Et puis, il y a d'autres exemples super dans la Vienne. Je pense au Clou, à Chauvigny. Et puis, plus globalement, il y a plein de super projets. Il y a à peu près 250 tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui qui sont référencés.
Alors, la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de carrément mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour améliorer ce réseau. Pourquoi c'est important pour une région comme la Nouvelle-Aquitaine de développer ces lieux ?
Oui, alors je précise juste en préambule que donc moi je représente la coopérative tiers-lieux, qui est la tête de réseau régional des tiers-lieux. Donc je ne suis pas, je ne parle pas au nom de la région.
Effectivement, on reviendra sur votre collaboration, effectivement.
Effectivement, je vais pouvoir en dire quand même deux mots puisque ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble sur ce sujet. Donc il faut savoir que la région Nouvelle-Aquitaine, c'était la première région, la région Aquitaine à l'époque en 2012, c'est la première collectivité qui a déployé une politique publique en faveur des tiers-lieux. Donc à l'époque, comme je le disais, 2011-2012, donc ça fait maintenant plus de 13 ans qu'elle soutient le développement de ces lieux. L'intérêt au départ pour la région, c'était plutôt, en fait, à l'époque, on voyait plutôt des espaces de coworking, on ne parlait pas trop de tiers-lieux encore. Et donc l'objectif au départ, c'était de se dire que certains agents des collectivités, et notamment de la région, qui faisaient plusieurs minutes, presque une heure de route par jour pour venir travailler dans des locaux, pourraient peut-être éviter ces flux pendulaires et donc travailler à proximité de chez eux dans ces bureaux. Et puis finalement, petit à petit, on s'est rendu compte de coworking et qu'il y avait un vrai enjeu finalement d'aménagement du territoire, de développement économique. Et puis plus globalement, après, le développement de l'économie sociale et solidaire s'est fait aussi par le biais de ces tiers-lieux qui sont très protéiformes, hybrides et qui proposent tout un tas d'activités qui agrègent des acteurs très différents sur des territoires donnés et notamment sur les territoires ruraux puisque en Nouvelle-Aquitaine, c'est 76% des tiers-lieux qui sont situés en milieu rural. Donc voilà, je ne veux pas parler à la place de la région, mais globalement, c'est un peu ça l'intérêt aussi du soutien des tiers-lieux par la région Nouvelle-Aquitaine.
Et justement, votre coopérative des tiers-lieux, comment elle s'inscrit là-dedans et comment elle collabore avec la région?
Alors en fait, on est là pour la première fois après 12 ans de relations. On vient de signer, enfin on est en train de signer un accord cadre justement qui régit notre partenariat région coopérative tiers-lieux. L'idée, c'est en fait que la région, elle a un dispositif financier pour soutenir l'émergence et le développement des tiers-lieux. Après, il y a aussi les équipes techniques de la région qui sont là pour aiguiller les porteurs de projets sur le bon dispositif, mettre en lien avec d'autres services de la région si nécessaire. Mais pour simplifier, la région, elle porte un dispositif financier. Là où la coopérative tiers-lieux, on a plusieurs actions, mais on a notamment une action d'animation territoriale en tant que tête de réseau régional. Et donc, on est plutôt la partie technique, en fait. On vient accompagner les tiers-lieux sur un certain nombre de sujets. On a une fonction, on a tendance à dire qu'en fait, on est la porte d'entrée, le premier accueil des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire qu'on est capable de soit les orienter vers des structures qui vont pouvoir répondre à leurs questions, soit directement prendre le temps d'échanger avec eux pour les questionner, les conseiller sur leur projet. Et puis après, il y a toute une partie animation, mise en réseau avec l'organisation d'événements, de visioconférences aussi, puisque la région est très grande, et une partie valorisation du mouvement des tiers-lieux. On a notamment une cartographie des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine que n'importe qui peut retrouver sur notre site internet pour identifier justement quels sont les lieux que vous pourriez fréquenter à côté de chez vous. Et puis voilà, dans la partie valorisation, on a aussi un observatoire à travers lequel on produit et on publie un panorama des tiers-lieux tous les 2 ans, ce qui permet justement, avec des grandes données, de mieux comprendre ce que sont les tiers-lieux, comment ils fonctionnent et comment on pourrait s'y impliquer si on est intéressé en tant qu'habitant. Voilà pour simplifier un petit peu l'action de la région et de la coopérative tiers-lieux.
L'objectif là, dans cet accord, c'est que chaque citoyen, chaque citoyenne ait accès à un tiers-lieu à moins de 20 minutes de son domicile. Donc c'est ambitieux. Vous disiez, les trois quarts des tiers-lieux sont situés en milieu rural. Justement, quelle est la spécificité peut-être de ces tiers-lieux en milieu rural par rapport à ceux qui sont en milieu urbain?
Oui, effectivement, c'est ambitieux. Après, ça fait plus de 10 ans qu'on a le même objectif, donc petit à petit, on va finir par y arriver. La particularité des tiers-lieux en milieu rural, c'est justement un peu cette hybridité que j'évoquais tout à l'heure. C'est souvent des lieux qui prennent un peu le rôle vous savez, du dernier café du village. Qui a fermé pour la plupart, malheureusement, dans les territoires ruraux. Donc l'idée, c'est pas du tout de dire qu'il se passe rien en milieu rural, bien au contraire, on a totalement conscience qu'il se passe plein de choses. Mais le tiers-lieu, il a un rôle un peu structurant et un rôle d'agrégateur en fait de ces différentes dynamiques et ressources. En fait, juste pour dire 2 mots sur la démarche tiers-lieu. On a tendance à conseiller aux porteurs de projets de commencer justement par faire un état des lieux, un diagnostic de ce qui se fait sur leur territoire, et aussi une enquête de besoins auprès des habitants pour être sûr d'avoir bien mis tout à plat et de savoir sur qui s'appuyer, sur quelles ressources s'appuyer pour imaginer un projet qui soit vraiment fédérateur de toutes ces initiatives et qui soit aussi à l'origine de nouvelles activités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a vraiment ce côté catalyseur, en fait, en milieu rural. On vient un peu shaker, secouer la pulpe de tout ce qui peut se passer sur un territoire donné. Et c'est un peu un méta-projet. Et ça fait référence, évidemment, à des projets d'animation territoriale. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais être trop longue.
Alors cet accord cadre, donc c'est pour 2025-2028, et l'un des objectifs, c'est effectivement d'améliorer ce maillage territorial, mais pas que. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les enjeux et sur quoi vous vous êtes accordé?
Oui, alors effectivement, l'enjeu de base, c'est d'avoir ce maillage territorial. Mais comme je le disais, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on porte cet enjeu. On a 250 tiers-lieux sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc l'objectif commence un petit peu à être atteint, mais c'est quand même, il y a un vrai enjeu en fait de réussir à maintenir l'activité de ces tiers-lieux, parce qu'il y a une politique publique qui amorce, mais une fois que c'est amorcé, Il faut quand même pouvoir pérenniser l'activité de ces lieux. Et donc, les trois objectifs, en fait, les trois priorités qu'on s'est données dans notre accord cadre, c'est de dynamiser les tiers-lieux et leur coopération dans les territoires, parce qu'en fait, on se rend compte qu'une des clés de pérennité des tiers-lieux, c'est justement de continuer de développer des nouveaux projets et donc des nouvelles coopérations en réponse aux besoins locaux qui sont toujours mouvants aussi et aux différents besoins des acteurs locaux. Donc ça, c'est un de nos objectifs. Et puis après, on a un objectif aussi de continuer à affirmer une vision partagée entre nous, régions coopératives tiers-lieux, pour continuer à faire rayonner nos actions en faveur des tiers-lieux sur le territoire néo-aquitain. Et puis, il y a un enjeu de continuer à favoriser l'adaptation de cette action, justement. Ce qu'il faut aussi savoir sur la politique publique tiers-lieu, c'est que c'est une des rares politiques publiques qui a fait l'objet d'une évaluation en 2021 et qui fait l'objet d'une évaluation à la fin de ces dispositifs directement auprès des tiers-lieux bénéficiaires pour faire évoluer à la fois le dispositif financier et à la fois nos actions coopératives tiers-lieux en tant que tête de réseau.
Et justement, qu'a donné cette évaluation ? Est-ce qu'il y a des exemples de tiers-lieux qui ont eu un impact sur un territoire ?
Oui, alors on n'a pas l'évaluation n'avait pas pour objet d'évaluer l'impact des tiers-lieux sur les territoires. Par contre, ce qu'elle nous a permis de voir, en fait, on l'a fait au moment des 10 ans de la politique publique. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus un enjeu à pérenniser les lieux qui avaient été soutenus au départ et donc pour qui on a aidé à l'amorçage, plus que de soutenir la création. Donc depuis 2022, la nouvelle politique publique régionale, elle vise en priorité à soutenir le développement des tiers-lieux déjà existants, qui justifie dans cette nouvelle mouture là du dispositif, qui justifie déjà d'au moins 2 années d'existence sur différents axes. Je les ai plus tous en tête, mais il y a un des nouveaux axes, c'est soigner autrement. Après, il y a un axe apprendre et se former autrement, fabriquer et produire autrement, nourrir autrement et expérimenter. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui nous, le gros de l'évaluation, c'est cette idée d'une aide au développement, mais la région continue aussi de soutenir à la création, à l'émergence de tiers-lieux. Par contre, elle a des critères d'éligibilité qui concernent les zones blanches en fait. Donc ça veut dire que c'est des projets qui sont situés sur un territoire dans lequel il n'y a pas d'autres tiers-lieux à moins de 20 minutes. Voilà, ça c'était la grosse leçon entre guillemets de l'évaluation. Et puis après, si l'évaluation d'impact des tiers-lieux vous intéresse, il y a notamment dans la Creuse la quincaillerie, qui est un tiers-lieu assez emblématique en Nouvelle-Aquitaine. La quincaillerie à Guéret, qui avec la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, vient de publier justement les résultats d'une enquête d'impact social que le tiers-lieu a pu avoir sur son territoire, donc sur la communauté d'agglos, on va dire. Donc, j'ai pas tous les résultats en tête, mais globalement, on voit bien qu'en fait, ce tiers-lieu répond aux différents objectifs que j'ai pu évoquer jusque-là, c'est-à-dire sur le volet animation territoriale, rayonnement local aussi, en fait, pour certains habitants. C'est vraiment un outil d'attractivité du territoire parce qu'on sait qu'il se passe des choses dans ce tiers-lieu, donc on est plus intéressé et sensible à une vie locale sur la commune. Et puis, bah, ça permet vraiment de... Enfin, on voit qu'il y a une notion de mise en lien, de... Comment, je ne veux pas trouver le terme que je cherche, mais on est moins isolé parce qu'on a ce tiers-lieu et qu'on sait qu'on peut y rencontrer des gens. Et puis, en tant qu'entrepreneur ou entreprise, on sait aussi qu'on va y trouver des outils, du réseau, etc., etc.
Oui, vous parliez des axes comme fabriquer et produire autrement, nourrir autrement. En quoi peut-être ces tiers-lieux peuvent aussi contribuer à une forme de transition écologique ou sociale de certains territoires ?
Oui, bah, du coup, c'est ça. Effectivement, dans le cœur de la plupart des projets de tiers-lieux, il y a cette volonté de faire autrement. Alors, ça peut être un grand mot dans lequel on met pas mal de choses, mais l'idée, c'est déjà simplement de remettre l'humain au cœur de nos actions. Donc, il y a cette notion de portage collectif qui est assez importante dans les tiers-lieux. C'est-à-dire que c'est des projets qui sont portés par des collectifs et ensuite qui sont gérés aussi par des collectifs. Donc, dans 74% des tiers-lieux de la région, c'est des lieux qui sont gérés par des associations. Donc déjà, rien que ça dit quelque chose en termes de projet social, de comment on fait société autour de ce projet de tiers-lieux. Donc, il y a une gouvernance partagée. Ça, c'est une autre manière quand même de fonctionner par rapport à des fonctionnements assez individualistes qu'on peut avoir quand même depuis plusieurs décennies et qui, je pense, vont en s'empirant, en tout cas sur la polarisation là, des débats et des avis ces dernières années. On voit bien qu'on tend quand même vers une forme d'entre-soi. Donc l'idée des tiers-lieux, c'est d'être le plus collectif possible, de proposer des zones en fait, d'échange, de rencontres, de débats à l'échelle d'une commune ou d'une agglo. Et puis après, sur le volet production, nourricier, etc., il y a plein d'exemples différents. Mais déjà, l'enjeu, c'est de pouvoir relocaliser une partie de l'activité artisanale de certains artisans ou alors de l'activité agricole, et aussi de s'interroger sur les pratiques écologiques, agroforesterie, permaculture, etc. Et puis d'avoir un lieu, comme je l'ai cité pour les usines tout à l'heure par exemple, un lieu de vente direct dans ces tiers-lieux pour que les habitants puissent venir directement se nourrir et se produire dans ces lieux de proximité. Donc ils le font pas tous, hein, ils ont tous leurs spécificités. Mais c'est quand même assez marqué dans la plupart des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine.
Merci beaucoup Chloé Rivollet. Je rappelle que vous êtes co-directrice et responsable animation territoriale de la coopérative des tiers-lieux. Et vous veniez nous parler de cette collaboration avec la région Nouvelle-Aquitaine pour cette nouvelle stratégie pour les tiers-lieux, à la fois parfaire le maillage territorial existant et puis aussi consolider les tiers-lieux déjà en place. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue en musique avec Twenty et Yadkor pour ce titre général.
This is
Yo
Yadkor 20. Listen.
Why?
Go tell them, say the man a general. Burn every place is like a fireball. Vibe is genuine and no chemical. Love and respect and no rental. Tell them man a general. Burn every place is like a fireball. Every day me work out me mental. Can't copy this, become original. Coulda never switch it up. Make flow is our craft, we never give it up. Bad minds and bad vibes, them we still a burn it up. Can't stop, we know we plan for reach it up. None of them vexed, but we not go stop. Behind them smile, full of it, them one with it drop. Them kind of waste man always pop up when them see me up. When them come for this, I will kill them with love. Go tell them, say them on a general. Burn every place is like a fireball. Vibe is genuine and no chemical. Love and respect and no rental. Tell them on a general. Burn every place is like a fireball. Every day me work out me mental. Can't copy this, become original.
How we go? Fire up on a general, your rental. Yardcore lock sentimental. To the mouse I am essential. In the youth we believe them no got no potential. So me unite, revolute, you right. Couldn't you do fight for the truth? Couldn't hide from it. Spotlight when you shoot, bulletproof in a suit. I listen, I say I know I'm on a
general. Burn every place is like a fireball. Vibe is genuine and no chemical. Love and respect and no rental.
And then be right, you never read them, get things sharper. Call on them, really matter. We want the people to figure out. Some people still have a selfish thing, but people do things, brother. Your brother, tell them about your brother. Rather be true than be new than be cool times then. Who fight, who mix up like flim? Rules like schools, me not too like them. 20 yard course at the trail.
Go tell them, say them on a general. Burn every place is like a fireball. Vibe is genuine and no chemical. Love and respect and no rental.
And no rental.
Tell them on a general. Burn every place is like a fireball. Every day me work out me mental. Can't copy this, become original.
Pulsar 95.9.
Ah ouais.
Dans le cadre d'une unité d'enseignement d'ouverture, nous avons des reporters en herbe. Et là, c'est Carla qui s'est rendue à l'un des premiers rendez-vous des cycles de conférences pour déconstruire le discours d'extrême droite à l'université.
Le vendredi 21 mars a eu lieu la première conférence du cycle Déconstruire l'extrême droite pour cette deuxième édition à l'Université de Poitiers. C'est une dizaine de conférences qui sont organisées par le syndicat Solidaire et des enseignants et enseignantes pour s'attaquer à des problématiques d'actualité en lien avec les discours fascistes montants. Chaque conférence permet ainsi de déconstruire un argument de l'extrême droite. On y parle de lutte féministe et LGBTQIA+, d'écologie, d'histoire et bien d'autres. Vendredi 21 mars avait lieu l'intervention de Marie Valin, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Poitiers.
C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette conférence. Moi, je suis historienne, je suis spécialisée sur l'histoire des masculinités et plutôt sur le 19e siècle. Mais en même temps, en fait, quand je lis l'actualité, j'ai vraiment l'impression des fois de lire mes sources historiques, ce qui est un peu flippant aussi.
Le titre de cette conférence était « Virilisme, masculinisme, fascisme, une histoire sur le temps long ». On a pu discuter avec quelqu'un qui venait d'y assister.
C'était top, parce que ça revenait sur des sujets en fait, dont on entend souvent parler, mais qu'on ne maîtrise pas tellement, et qui en plus investissent souvent le langage courant de plus en plus, mais qu'on emploie souvent sans forcément maîtriser un peu les tenants et les aboutissants. Et la conférence de Marie Valin a permis un peu de replacer tout ça, et donc super intéressant. Et le débat qui à la fin était aussi... qui était ouvert, en fait, c'est aussi la force, je pense, de ces moments-là, c'est que ça permet aussi de libérer un peu d'espace de parole et puis de s'approprier aussi ce que les idées qu'elle met en valeur, quoi. C'est, en fait, je pense que c'est assez rare que ça se fasse dans les universités, surtout en ce moment, et je pense qu'on en a énormément besoin.
En parlant d'organisation, nous avons pu rencontrer Robin, qui a participé à la création du collectif et au déroulement de cette édition. C'est un élu étudiant pour le syndicat Solidaire à l'UFR Sciences Humaines et Arts. Il va nous parler de la genèse du collectif.
Et ça met dans un contexte politique où il y avait une montée de l'extrême droite, que ce soit dans les élections, ou du coup qui s'est mis aussi dans le cadre académique, avec par exemple à l'UFR SHA une montée de l'Action française chez les étudiants, une montée des syndicats d'extrême droite comme l'UNI ou la Cocarde étudiante. Donc face à cette montée de l'extrême droite, chez Solidaires étudiants, on s'était réunis et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de casser cette montée de l'extrême droite au sein de l'académie, dans un cadre institutionnel. Et du coup, on a eu l'idée de faire une formation populaire, en gros, sur les sujets repris par l'extrême droite et sur l'argumentation de l'extrême droite. Donc de là, on s'est dit, ok, c'est quoi le meilleur moyen de le faire? Et on s'est dit, autant passer par les institutions et du coup par les enseignants, pour aller sur leur propre terrain et lutter contre l'extrême droite avec les institutions. Et ça aussi, symboliquement, c'était aussi très fort de faire comprendre à tous les étudiants l'extrême droite qu'ils n'étaient pas les bienvenus à l'université et que leurs idées n'étaient pas les bienvenues dans ce cadre institutionnel-là.
Les prochaines conférences du cycle auront lieu les 3, 4 et 7 avril. Celle du jeudi 3 avril aura lieu à 14h sur le campus en lettres et langues, amphi Marsha P. Johnson, et elle portera sur des féminismes pro-capitalisme, impérialisme et des raisons de les combattre. Puis table ronde et débat sur le féminisme révolutionnaire, ce sera vendredi 4 avril à 18h au même endroit. Et pour finir ce cycle, le lundi 7 avril à 17h30, ce sera à la recherche de l'autre, la conceptualisation culturelle et symbolique de la pluralité des organes reproductifs. Ce sera à l'Hôtel Fumé en centre-ville, en fille Françoise Bardon.
Et maintenant, on accueille Erwan, service civique au cinéma Le Dietrich. Erwan, tu nous parles d'un petit film, peu connu peut-être, Peaches Goes Bananas.
Oui, tout à fait. Cette semaine au Dietrich, avec le soleil qui arrive, on va vous inviter à devenir fou, on va vous inviter à devenir dingue, à péter les plombs, ou même à piquer une crise. Autant de synonymes pour traduire l'expression anglaise « go bananas » qu'utilise la documentariste Marie Lozier pour son documentaire sur l'artiste punk Peaches. Alors vous me direz, pourquoi cette Peaches, elle goes bananas? Eh bien, c'est tout simplement sa personnalité et celle qu'elle transmet à travers ses musiques, son attitude, sa persona d'artiste, c'est cette impulsion de révolte contre les carcans établis d'un patriarcat dans laquelle elle fait infuser un féminisme quasi jusqu'au boutiste. Cette femme, Peaches, de son vrai nom Meryl Beth Nisker, elle quitte son domicile et son travail d'institutrice au Canada avec l'ambition de se faire un nom dans le Berlin Underground en alliant mêlant sexe, punk et un souvenir doux et florissant des années 80. Le documentaire se présente alors à nous, spectateurs, comme un condensé de plus de 15 ans d'images filmées par la cinéaste Marie Lozier, qui suit cet artiste queer unique en son genre depuis 2006, dans ses réussites, ses doutes, ses remises en question et surtout dans son combat quotidien pour mettre en avant une attitude queer et féministe d'apparence sans limite. Pour ceux qui n'ont pas trop d'idées visuellement d'à quoi ressemble un concert de Peaches, représentez-vous une très grosse fête où tout le public est invité, sans mur de séparation avec l'artiste, je veux dire vraiment, le public monte sur scène, danse avec elle, c'est une expérience collective et sensorielle où parfois les vêtements même sont optionnels. Le documentaire retranscrit plutôt très bien ce festival des sens qu'elle propose en concert, malgré qu'on n'ait que très peu d'indications temporelles dans le récit. J'entends par là qu'on peut très bien avoir des images de 2019, puis après des images de 2007, sans qu'on nous le précise, ce qui crée au début une perte de repère pas sans intérêt, mais assurément déconcertante. Alors si vous voulez plonger dans l'univers fantasque et l'esprit fougueux de cette artiste talentueuse, venez découvrir Peaches Goes Bananas dès vendredi au cinéma Le Dietrich. Puis dans un autre registre, celui de la fête, mais cette fois qui tourne plutôt au cauchemar, nous avons l'immense plaisir de ressortir en version restaurée 4K. À l'occasion des 25 ans de la sortie du film, le drame de Darren Aronofsky qui a marqué son époque, j'ai nommé Requiem for a Dream. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le film suit plusieurs personnages qui vont tomber petit à petit dans le cercle vicieux et tortueux de l'addiction, l'addiction à la drogue pour certains et aux médicaments pour d'autres. Cette œuvre culte immensément nihiliste tout de même est un objet de cinéma marqué dans son époque. Ses effets très années 2000 ne vous échapperont pas, que ce soit dans le montage ou même la musique du film. Mais ce n'est pas forcément avec le jargon de cinéma habituel que j'ai envie de vous parler du film, mais avec des ressentis, car je pense que c'est bien plus pertinent dans ce cas précis. Personnellement, j'ai découvert le film au début de mon adolescence, par l'aspect œuvre culte qu'il fallait découvrir absolument, et quand on me reparlait du film ces derniers temps, il m'en restait très peu de souvenirs. Bon, c'est une chose que le film ne m'ait pas marqué, mais c'en est une autre quand on me disait que le film était plutôt choquant dans certaines images et que peut-être mon esprit les avait évacuées, du fait qu'elle m'avait choqué justement à mon visionnage. Donc bien sûr, j'ai revu le film en salle le mois dernier, et oui, l'expérience a été à la fois stimulante en termes de cinéma, mais aussi très perturbante, avec les événements jusqu'au boutiste et profondément tristes qui se déroulent dans le film. Découvrir ou redécouvrir Requiem for a Dream en salle, c'est comme le voir pour la première fois, c'est un choc visuel et sonore qui bouscule vos sens de la première jusqu'à la dernière, j'insiste bien, jusqu'à la dernière minute. Donc si vous êtes tenté par l'expérience, que vous pensez avoir le cœur bien accroché pour ce que vous allez voir, n'hésitez pas une seconde et venez voir Requiem for a Dream au Dietrich dès le lundi 7 avril à 21h où les ambassadeurs étudiants du cinéma vous présenteront le film et ils vous y attendent très nombreux.
Merci beaucoup pour toutes ces expériences effectivement cinématographiques. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Organisé par l'Académie de Poitiers et la Fédération Nationale des Chorales Scolaires, le premier Festival des Arts à l'école débute aujourd'hui. FEDEAE s'apprête à faire vibrer le Futuroscope pendant 3 jours. Il invite les jeunes et leurs professeurs à s'exprimer à travers la musique, le chant, la chorale, la danse, le théâtre, les arts plastiques et numériques, le cirque et la poésie. On attend près de 6000 jeunes, 200 professionnels et 200 bénévoles pour 3 jours de spectacles, d'ateliers et de rencontres artistiques. N'hésitez pas à les rejoindre. Collecte de sang à Saint-Benoît dans le hall de la Une, c'est cet après-midi entre 15h et 19h. Et puis, Calme comme à la maison à Neuville-de-Poitou vous propose un atelier parents-enfants préparation du goûter animé par la chef Céline Guignard de Et si on cuisinait. Venez avec des boîtes hermétiques et ça coûte 40€ pour le binôme adulte-enfant. Sur Pulsar, à 21h, c'est l'indépendance. À 23h, dans Sonokino, 2 compositeurs dont la complémentarité a marqué les années 60 et l'image des films que leur musique ont accompagné, Serge Gainsbourg et Michel Colombier. Merci Yann pour la réalisation technique. On se quitte avec un extrait de Emma Yazurlo. Il fait partie des pionniers de la Nukumbia avec son groupe Quilombo Sonoro et il sera en concert au Kamji à Niort ce week-end. Bonne écoute!